Les Bouddhas, Dharma et Sangha, jusqu'à l'éveil, j'entre en refuge par les bienfaits des dons et vertus que je m'éveille pour tous les vivants. Om Aum. Dans la voie immédiate de l'autolibération, nous avons vu ce qu'est cette approche d'immédiateté de l'état de présence instantanée. Nous avons vu les réceptivités pour cette pratique essentielle. Nous allons maintenant voir sa présentation. Le chapitre 3 se nomme Ngocho, la présentation de la nature de l'esprit. Dans le Dzogchen, ou le Mahamudra essentiel, la pratique ou la transmission commence par ce que l'on nomme une présentation directe, une introduction directe. L'introduction directe à l'expérience d'immédiateté, à l'expérience de nowness, à l'expérience de ce que l'on nomme la présence d'instantanéité, d'atthari shepa en tibétain. Le lama nous présente cet état, ou plus exactement, il nous y amène, il nous y introduit, il nous le fait découvrir, sentir, vivre. Il y a pour cela différentes façons de faire. Il peut guidé par des conseils, il peut amener une situation, utiliser des symboles, il peut faire une introduction directe aussi avec un son ou une forme de guidance. Il y a différentes possibilités, mais dans tous les cas, il s'agit par le moyen qu'utilise le maître d'amener le disciple à cette expérience, à vivre ce dont il s'agit et à reconnaître l'état de présence d'instantanéité. C'est ce que l'on nomme ngocho en tibétain, présentation, introduction directe. Puis, cet état ayant été trouvé, ayant été découvert, la pratique va consister à le cultiver, comme on dit. Cultiver, en tibétain, on dit kyonwa, on peut dire cultiver, on peut dire intégrer. Ce qui signifie d'intégrer cet état dans notre vie, dans toutes les situations de notre vie, personnel, familial, professionnel, quelle qu'elle soit, en toute action, en toute circonstance, en tous faits et gestes, vivre en cet état, en l'intégrant. Et lorsque, par la force du rappel, lorsque par l'engagement total qui consiste à s'y consacrer, à ici, s'y absorber ou s'y revenir chaque fois que l'on en aurait été distrait, chaque fois que l'on s'en distrait, ainsi par cette intégration dans le rappel, s'établit une stabilité. Et lorsque la stabilité est devenue complète, parfaite, c'est ce que l'on nomme la réalisation. La réalisation de la nature de l'esprit, la réalisation de la nature de l'expérience, la réalisation de l'état de Bouddha ou simplement la réalisation de l'état de présence absolue qui n'est autre que l'expérience d'un éveillé, l'expérience d'un Bouddha. Kalu Dorje Chan nous dit, dans la pratique, Mahamudra ou Dzogchen sont présentés et le pratiquant expérimente ce qui lui a été transmis, puis rapporte son expérience au lama. Il y a ainsi un va-et-vient entre l'enseignement et la pratique. Dans l'état du Mahamudra, l'état de Dzogchen, l'état de présence d'instantanéité, le est pr présenté. La main nous présente. Par exemple, au début de la voie du Bouddha, dans la section sur la nature de l'esprit, il est une forme de présentation que fit Vajradhara Kadurimpeche. C'était à la Sorbonne, où le texte en est dans le livre, où il présente l'ouverture, la clarté et la bonté ou les qualités de l'expérience éveillée. C'est une forme de présentation. Je le répète, il y a différentes façons de faire, suivant les circonstances. Mais donc, il y a la présentation et le pratiquant rapporte au maître ce qu'il a découvert, comment il vit l'expérience, comment il la comprend. Et le maître peut, à la lumière de sa propre expérience et de sa propre compréhension, il peut sentir, comprendre ce que vit le disciple et il peut le conseiller, il peut lui dire oui ou attention, là, erreur. Donc, il y a ainsi un accompagnement et une guidance qui se fait dans un va-et-vient entre le maître et le disciple, entre l'enseignant et le pratiquant. Donc ainsi, le lama fait une introduction directe, donne des instructions, puis aussi pose des questions, il fait examiner, considérer. Le disciple rapporte son expérience, le lama interroge, donne des compléments d'instruction et toujours renvoie à la pratique, entendu que c'est une contemplation non conceptuelle et qu'il ne s'agit pas de comprendre avec des mots, mais de sentir, d'expérimenter dans une expérience aconceptuelle, donc de découvrir dans le vécu même. Nous comparons l'expérience et les instructions du lama, ces questions nous accompagnent et ainsi nous pouvons découvrir la pratique juste. C'est dans cette communication essentielle que la compréhension réelle fondée sur l'expérience se développe petit à petit. Alors, où se développe petit à petit, où se comprend vraiment petit à petit, et où la certitude de l'expérience s'affermit, car la pratique du Dzogchen ou du Mahamudra essentiel demande une certitude au-delà du doute, une certitude au-delà des concepts. Un mental conceptuel doute toujours, seule l'expérience directe, la contemplation aconceptuelle amène une certitude indubitable et c'est celle-ci que l'on peut trouver dans la relation au maître et dans cette guidance, cet accompagnement qu'il opère. Toute cette démarche a pour fonction de faire reconnaître la nature de l'esprit. C'est une présentation de la nature de l'esprit, ce qui se nomme en tibétain ngotre. Ngotre, ngo, c'est la face ou l'essence, et tre, c'est montrer ou introduire. Donc ngotre, c'est présenter, comme on présenterait quelque chose ou une personne, mais c'est présenter l'essence, c'est présenter la nature, c'est introduire à celle-ci. La nature de l'esprit nous est présentée comme on le serait à une personne, introduit auprès d'elle. Le lama nous la présente, nous fait reconnaître l'état essentiel, ce qu'il est, comme il est. Donc, l'introduction directe est une forme d'initiation. Introduire, c'est aussi initier, présenter. Donc, c'est l'initiation à l'état fondamental, l'initiation à la nature de l'esprit. C'est l'initiation du Mahamudra ou du Dzogchen essentiel. Et c'est l'initiation fondamentale. Dans la tradition des tantras, il y a différentes formes d'initiation, aussi dans le Mahamudra, dans le Dzogchen. Il y a des initiations symboliques, rituelles. Quatre niveaux d'initiation, etc. L'introduction directe est l'initiation la plus essentielle et la plus fondamentale. C'est l'initiation du sens, l'initiation de l'expérience essentielle. Elle est très simple, mais il faut, pour que sa transmission soit authentique, qu'il y ait des circonstances adéquates qui sont la compétence, l'expérience, la réalisation du maître, sa compassion, sa bienveillance, sa grande bonté et la réceptivité du disciple, sa dévotion, sa confiance, son ouverture, sa disponibilité et sa préparation, dont les qualités précédentes sont le résultat. Et lorsque ces deux situations du disciple et du maître et du disciple se rencontrent, la transmission essentielle, directe, peut vraiment opérer. La partie suivante dit voir l'esprit et sa nature. L'introduction directe peut commencer par la contemplation de notre esprit. Il peut y avoir, et il y a généralement, en préparation, les pratiques de la pleine présence, pratiques de shamatha, pratiques de vipassana. Et dans vipassana, la contemplation conceptuel de l'esprit. En exergue du chapitre, est une stance de Ranjun Dorje, le troisième karmapa, extraite des souhaits du Mahamudra. Cette stance dit « Observant encore et encore l'esprit inobservable, lacton et claire vision du comment du sens invisible. Les doutes sur ce qui est ou n'est pas s'étant dissipé, puisse sans illusion ma propre face se reconnaître. » C'est une stance extrêmement profonde et qui nécessite une grande attention. Mais observe encore l'esprit. Contemplant encore et encore l'esprit, dans une contemplation silencieuse, nue, non conceptuelle, une simple observation de comment c'est, contemplant ainsi, encore et encore, l'esprit inobservable. L'esprit est ce qui observe. L'esprit est l'observateur. Et l'observateur n'est pas observable par l'observateur, il y a là un paradoxe. Mais néanmoins, la contemplation se pose dans une clarté réflexive qui se comprend. Et l'actant tibétain, Vipassana sanskrit, la clairvision, c'est le nom de la traduction de Vipassana, l'actant et clairvision voient clairement le comment, les modalités, le comment c'est de ce sens invisible, du sens de l'observation de l'observateur ou de l'esprit se comprenant lui-même. Et alors, les doutes sur ce qui est et n'est pas, et sur ce que l'esprit est ou n'est pas, ces doutes s'étant dissipés, dissous, puissent, sans illusion, au-delà des illusions, ma propre face, ma propre nature, se reconnaître, se comprendre en elle-même, se reconnaître en soi. Donc, l'introduction directe peut commencer ou avoir pour préliminaire shamatha, vipassana et l'examen de l'esprit. La contemplation de notre esprit, ce qui pense et expérimente tout ce que nous connaissons. L'esprit est ce qui pense et expérimente, le penseur, l'expérimentateur. Nous observons cet esprit qui a la capacité de penser. Où est-il? D'où vient-il? Où va-t-il? Ce sont des questions très simples, mais il s'agit d'observer et d'entrer dans cette, en quelque sorte, auto-observation ou observation réflexive de l'intelligence retournant sur elle-même pour voir ce qu'elle est. Il s'agit de voir ainsi son mode d'apparition, sa localisation et son mode de disparition. Si nous découvrons comment l'esprit apparaît, où il est localisé et comment il disparaît, nous observons alors qui fait l'expérience de cette découverte. Qui connaît? Qu'est-ce que le connaisseur? Alors, quand on dit sache ce que tu es ou comprends ce que tu es en tant qu'observateur, en tant que penseur, en tant que connaisseur, c'est ainsi que cette intelligence fondamentale peut émerger. Nous examinons l'état de celui qui en fait l'expérience, ou de ceux qui en fait l'expérience, la disposition essentielle de l'esprit, l'état fondamental de l'esprit, en tant qu'expérimentateur. A-t-il comme tel des caractéristiques en termes de forme, de couleur ou de quoi que ce soit? Il s'agit d'observer, de chercher pour arriver dans l'expérience à une compréhension certaine, indubitable. Faisant véritablement ces recherches et ces observations, si nous trouvons à l'esprit une forme, une couleur ou une caractéristique particulière, nous la rapportons au maître. Sinon, nous nous interrogeons sur ce qui fait ces expériences d'absence de caractéristiques. Et voyons aussi comment s'expérimente un esprit sans caractéristiques. Donc, si on trouve des caractéristiques dans notre observation, on les rapporte. Si l'on n'en trouve pas, on observe comment est cette absence de caractéristiques et comment s'expérimente cette absence de caractéristiques ou cette intelligence dépourvue de caractéristiques particulières telles que nous les avons cherchées, observées. N'y a-t-il pas quelqu'un qui ait des caractéristiques et qui soit là pour faire l'expérience? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait cette expérience et quelles sont ses caractéristiques? Le point important est de poursuivre ces recherches expérimentalement par notre observation personnelle, en méditant et en relation avec le Maître, qui nous guidera jusqu'à ce qu'une certitude s'élève quant à l'existence ou la non-existence de l'esprit. Expérimentalement, dans l'expérience, l'observation, avec la guidance, l'aide du Maître, jusqu'à ce que nous soyons certains de ce qu'est ou n'est pas l'esprit, de comment il existe ou n'existe pas. Après cette première sorte d'observation, nous pouvons aussi contempler l'esprit au repos, l'esprit en mouvement, l'esprit connaisseur, l'esprit au repos, sans penser, comment est-ce? L'esprit en mouvement avec des pensées, mouvement. Comment est-ce? Et l'esprit connaisseur, expérimentateur aussi bien de l'état de repos que de l'état de mouvement. Comment est-ce? Par exemple, quand l'esprit est au repos dans la pratique de shamatha, comment est-il? S'il est en un état ouvert et clair, comment sont cette ouverture et cette clarté? Puis, quand l'esprit est en mouvement, lorsque des pensées apparaissent, comment est-il en mouvement? Comment apparaissent les pensées qui y sont présentes? Comment sont-elles? L'esprit, ses pensées, sont-elles différentes de l'esprit? Sont-elles les mêmes? Quelle est leur relation? Comment cela se passe-t-il? D'observer avec grande attention et finesse comment c'est. L'esprit au repos et l'esprit en mouvement sont-ils différents ou non? Autre examen. Dans un cas comme dans l'autre, comment? Et qui connaît l'esprit au repos ou en mouvement, ou comment se connaît-il? Ce que nous disions précédemment. Y a-t-il une différence entre l'esprit au repos ou en mouvement et le connaisseur de celui-ci? Et ce sont des questions très simples, mais qui nous amène à une observation, à une expérience particulière qui justement questionne le mode d'être de l'esprit, le mode d'être de ce que je suis, de ce que je vis comme mon esprit ou comme esprit. Et c'est ainsi, dans cette observation directe, réflexive, que l'intelligence fondamentale émerge. L'esprit au repos, en mouvement, Ont-ils l'un et l'autre des caractéristiques? Si oui, lesquelles? S'ils n'en ont pas, comment? Et cette absence de caractéristiques. Nous méditons ainsi durant un certain temps, des jours, des semaines, des mois, des années, mais toujours en nous référant au maître qui peut nous bien guider et nous aider dans notre quête. C'est une quête, une véritable quête essentielle, c'est même la quête par excellence, et toute l'aventure spirituelle, toute l'aventure de la réalisation se trouve dans cette quête essentielle. Nous rapportons au lama les conclusions, chaque fois que nous avons l'impression d'avoir trouvé ou compris quelque chose. Il nous dit ce qui est juste, nous aide à dissiper nos doutes, nous montre les erreurs que nous avons pu faire, nous donne des conseils, nous propose de nouveaux examens, de nouvelles questions. C'est dans cette relation que la pratique se précise et s'approfondit, et nous continuons ainsi jusqu'à ce que l'état fondamental de l'esprit, sa situation essentielle, sa nature, nous soit clairement apparu, que nous l'ayons clairement reconnu, jusqu'à ce que nous ayons trouvé, au-delà de tout doute, l'esprit d'immédiateté, en tibétain, Dakar Gishepa, la présence d'immédiateté, la présence d'instantanéité, nowness fondamentale, l'état de présence immédiat, l'état de présence non dualiste, l'état de présence absolue. Cet état de présence, d'immédiateté, que l'on nomme aussi en tibétain Tamel Gichepa, c'est-à-dire l'esprit ou l'expérience ordinaire, ordinaire ayant le sens de première, de l'ordre initial, premier, primordial, ce qui est naturel avant une fabrication, avant tout ce qui est secondaire. Et cette expérience de l'état de présence absolue, crue, nue, brute, telle quelle, l'incité de l'instant présent. Kalo Dorje Chan continue en une relation personnelle. Aujourd'hui, une telle relation personnelle entre maître et disciple peut sembler un peu difficile, car maître et disciple sont très occupés et il est fréquemment nécessaire de donner des instructions rapidement. C'est que maintenant, il faudrait pouvoir réaliser Mahamudra entre 19h30, quand on rentre à la maison, et 20h, l'heure du journal télévisé. Ou encore devenir le Bouddha le matin de 6 à 7 avant de partir au travail. Comprendre véritablement la nature de l'esprit est très délicat. Pour que nous y arrivions, il faut qu'un maître nous donne longuement des instructions et que de notre côté, pendant tout ce temps, nous les appliquions examinant l'esprit, ou nous les intégrions. C'est à la fois très simple et très délicat, mais la présentation directe, l'introduction directe, si elle eut lieu de façon véritable, et que le disciple trouva l'expérience, il lui faut ensuite une détermination au-delà de tout doute, dans un engagement complet, total, pour pouvoir véritablement l'intégrer, la stabiliser. Et c'est là aussi que l'accompagnement du maître peut lui faire éviter les déviations, les errances, les voies de garage, et tous les obstacles qu'il peut y avoir dans cette intégration jusqu'à la stabilité. Une profonde dévotion envers le lama, ainsi que les pratiques de développement et de dévoilement, sont également très importantes. La dévotion ici est la connexion, la réceptivité, qui permet justement d'être réceptif à l'écoute des instructions du maître, sans croire tout d'un coup, ça y est, j'ai tout compris, je sais aussi bien que lui, je sais mieux que lui, plus besoin de rien, ça y est. Il y a là un très très grand danger. Donc, cette connexion, cette relation de confiance fondamentale, de dévotion, de réceptivité, qui est aussi le lien sacré, le samaya fondamental, associé au dévoilement, développement. Toutes les pratiques de dévoilement, développement sont susceptibles de continuer dans l'intégration et l'état de présence se cultive en toutes circonstances et il est bien de le cultiver aussi et particulièrement dans les bonnes circonstances. Ce sont les pratiques de dévoilement et de développement qui sont des moyens d'intégration, des adjuvants et en même temps aussi une expression d'inspiration pour les autres en Bodhisattva. Sans la conjonction de ces différents éléments, il est difficile de reconnaître vraiment la nature de l'esprit. Pour que cette reconnaissance soit possible, il faut d'une part un maître réalisé ayant des capacités authentiques et d'autre part un disciple qualifié par sa dévotion et son développement dévoilement antérieur. C'est ce que nous disions au début. Et un dévoilement développement antérieur, c'est-à-dire un terrain fertile, un terrain réceptif, un terrain qui a été préparé, un réceptacle adéquat et le dévoilement-développement est ce qu'accomplissent les pratiques préliminaires, les nando, qui sont des préparations, qui ne sont pas indispensables, mais par contre, la réceptivité, elle, est indispensable, et cette réceptivité vient de bonnes préparations, du développement d'un bon réceptacle, qui est quelque chose qui se cultive et qui se prépare. Lorsqu'une telle rencontre a lieu, le maître, rencontre authentique, le maître peut déceler les compétences du disciple et celui-ci peut être réceptif à son enseignement. Alors, tout est inclus dans cette pratique, dans la transmission essentielle du Dzogchen, du Mahamudra. Il n'est besoin de rien d'autre, mais de nos jours, il est rare de rencontrer de telles qualifications de part et d'autre, et donc peu de lamas enseignent ainsi. Et cette relation forte maître-disciple, qui est le cœur de la transmission yogique, se développe et se cultive dans la pratique du yoga du maître, du yoga du lama, qui est, s'il en est une d'essentielle, la pratique fondamentale qui est associée à la transmission du Mahamudra ou du Dzogchen essentiel, à la pratique du Mocheu et à l'intégration, la pratique d'intégration qui s'ensuit. Un moment de contemplation. Et le chapitre se conclut avec une histoire. La diligence de Rinpo Dorje. Rinpo Dorje était un bandit de grand chemin qui, un jour, s'attaquant à un cavalier de passage, l'assassina puis tua sa jument qu'il dépeça. Comme elle était sur le point de mettre bas, il libéra un petit poulain pitoyable qui lui inspira un grand remords et une profonde compassion. Il choisit alors d'abandonner le brigandage pour la pratique du dharma, conscient que s'il ne purifiait pas maintenant sa conduite, il devrait en éprouver les conséquences dans les pires tourments infernaux. Aussi, ayant sollicité et reçu toutes les instructions, il s'installa dans une grotte où il pratiqua Shamatha Vipassana et Mahamudra avec une dévotion intense et une énergie indéfectible. Sa diligence, son énergie, son courage, son assiduité étaient celles de quelqu'un qui éteindrait sa chevelure en feu. Il ne laissait jamais refroidir son siège de méditation. Et il est connu pour être arrivé à la réalisation de Mahamudra en 6 mois. Lorsqu'il quitta sa grotte, il utilisa son zen, son châle, comme une aile et partit en volant tout en chantant des chants de réalisation. C'est l'un des Mahasiddhas, des grands accomplis kagyus. L'endroit où il médita est encore aujourd'hui un lieu de pèlerinage. Toute vertu ainsi pratiquée est sans aucune appropriation dédiée au bien de tous les vivants en la réalité absolue.